accident de frontière entre rêve et veille.
Un épuisement soudain m'ensevelit.
Je sommeille sur un divan.
Quelqu'un entre.
J'entends, je n'entends pas.
Je dors, je m'éveille.
Je continue à dormir.
En un instant naît la scission mémorable.
Moi qui veille se lève, et montrant au nouveau venu, moi qui dors toujours étendu sur le divan, dit en se penchant.
Il dort.
Sans la moindre angoisse.
La crainte commence à saisir moi qui veille quand moi qui dors s'agite. Écrit.
En proie aux lémures du profond sommeil.
Moi qui veille se tournant vers son hôte, dit finement.
Il rêve.
Il rêve.
Moi qui dors se dresse brusquement sur son séant.
Moi qui veille, poussé par un souvenir de solidarité, l'aide à se dresser complètement.
Spectacle unique. Moi qui veille, prends le bras de moi qui dort, comme on fait un convalescent.
Et tous deux, ou tout un en deux, font au pas autour de la chambre. Au secours!
Moi qui dors, chancelle.
Moi qui dors s'affaisse, il échappe à moi qui veille et tombe très lourdement sur le sol.
Moi qui veille, toujours debout, le contemple, puis inquiet, tourne vers son hôte et dit.
Très ennuyeux, quand il faudra que je rentre là-dedans, je me trouverai courbaturé et j'aurai mal à la tête pour le reste de la journée.
05-08-16 05-08-16 Nous avons rencontré un homme à l'arrêt de bus de Pondichéry, un ancien militaire de la marine indienne. Il s'appelle Vic Ted. Il était avec un ami à lui qui le raccompagnait à la station de bus. Il rentrait à Chennai, où il vit. Nous avons parlé d'Auroville. Il nous a dit que notre père et notre mère, peu importe nos religions, sont nos dieux, et qu'en devenant père à notre tour, nous devenons le dieu de nos enfants. Il portait un pantalon marron épais avec un pli de repassage au milieu de la cuisse. Il portait une chemise bleue à rayures blanches. C'était une chemise un peu brillante. Il portait des lunettes rectangulaires transparentes. Il avait la peau très noire. Dans le bus, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il y avait beaucoup de place libre, mais il m'a demandé si on pouvait partager la double banquette que j'occupais. Il avait beaucoup voyagé avec la marine indienne en Angleterre, au Japon, en Chine, en Australie. Il parlait anglais. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu que je faisais une thèse doctorat en philosophie, et que j'allais devenir professeur à la rentrée peut-être. Nous avons un peu parlé du métier de professeur. Il m'a dit que je devais revenir en Inde pour enseigner la philosophie, que les cours de philosophie manquaient en Inde. Je me suis endormi la tête contre la vitre. Le bus sautait, crachait, octait sur les routes défoncées et ma tête frappait un peu contre la vitre. Je me suis réveillé au premier arrêt lorsque le chauffeur s'est arrêté pour dîner dans une cantine au bord de la route. Nous sommes descendus tous les trois et nous avons suivi Vic Ted dans la cantine. Il a commandé des chapatis et des sauces. Il a insisté pour que Clément, qui avait faim, partage son repas. Il a commandé 3 thés. Quand le chauffeur, assis à une table plus loin, s'est levé pour repartir, Vic Ted a demandé l'addition et a payé pour nous 3 sans rien dire. Quand je l'ai remercié, il m'a demandé pourquoi. Plus tard, dans le bus, assis à côté de lui, je lui ai demandé pourquoi il avait répondu pourquoi. Je lui ai dit que c'était normal de le remercier. Il m'a répondu que c'était un honneur pour lui que nous soyons là, en Inde, loin de chez nous, que nous voulions découvrir son pays et que c'était à lui de nous remercier. J'ai essayé de me rendormir, il a fermé les yeux, Il nous avait dit qu'il dormait peu, mais qu'il méditait souvent pendant 3 ou 4 heures. Il était allé à l'ashram lors de son passage à Pondichéry et avait médité 3 ou 4 heures devant la tombe d'Aurobindo. On lui avait dit que nous allions à l'aéroport de Chennai. Il nous avait dit qu'il nous guiderait, que nous descendrions avec lui et qu'il nous indiquerait le bus à prendre pour aller à l'aéroport. Vers minuit, il nous a dit de rassembler nos affaires, que nous descendions. Nous l'avons suivi dans la nuit au bord de la route. Derrière ses lunettes, concentré, il cherchait le bus pour l'aéroport. Soudain, il nous a dit de monter dans celui qui arrivait. Nous l'avons suivi, il est monté avec nous. Il nous a dit qu'il devait descendre avant nous, mais que le chauffeur nous indiquerait l'aéroport et que le terminal du bus était à l'aéroport. Nous regardions les rues de Chennai la nuit. Il nous a dit que l'Inde était un pays pauvre, mais un pays avec un grand cœur. Nous sommes restés silencieux. Je me suis dit que ce type était émouvant et qu'il n'y avait peut-être que dans la littérature qu'on laissait advenir et durer ce genre de silence. Victed s'est levé. Il nous a rappelé que le chauffeur nous indiquerait l'aéroport et que cela avait été un honneur pour lui de nous rencontrer. Nous lui avons répondu que pour nous aussi. Avant de descendre du bus, il m'a serré la main et en souriant m'a dit « Goodbye, professeur ».
Bah, du coup, c'est vrai que moi, pendant ce bus, pendant ce trajet de bus, j'avais quand même beaucoup moins parlé avec ce type là. Je regardais le paysage et puis j'ai surtout beaucoup dormi. Au début, quand on s'est arrêté au stand et qu'il m'a proposé de partager son plat, comme on avait été assez malade la semaine précédente, j'étais un peu sceptique, il y avait pas mal de sauce qui avait l'air forte. Et puis, je sais pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Quoi, et ça semblait tellement naturel pour lui, il n'aurait pas compris que je dise non. J'ai mangé, c'était excellent. Et juste avant de repartir sur cette histoire, ça me fait penser à une autre histoire que j'ai vécue ensuite, un peu plus tard, seul, quand j'étais dans les montagnes au nord de l'Inde, dans l'Himachal Pradesh. Et j'arrive dans une ville qui s'appelle Chitkul. Et il fallait que je prenne un bus pour arriver d'une première ville à une deuxième ville, un petit bus local. Et dans ce bus, tout le monde s'est précipité pour choper une place assise parce qu'il y avait beaucoup trop de monde pour le bus. Il y avait même des mecs qui étaient sur le toit du bus. Et du coup, moi, j'étais debout dans une position hyper inconfortable et il y a une dame, très très jolie femme, d'âge assez mûr, mais je sais pas, c'est une partie de l'Inde où je trouvais que les gens avaient vraiment des traits élégants. Et qui voit que je suis en galère, que je transpire, je suis là debout, je suis pas bien. Et du coup, elle commence à me proposer une pomme. Et là, souvenir de quelques semaines plus tôt où j'ai été malade à cause de conneries, je me dis putain, la pomme, c'est une galère. Et en même temps, je me dis s'il y a une bonne raison d'être malade, c'est en mangeant cette pomme, quoi. C'est tellement sympa. Elle me propose la pomme et elle vire un mec, elle lui dit casse-toi ou laisse-lui poser une fesse et tout ça. Donc je bouffe la pomme et tout va bien. Le lendemain, grosse maladie. Bref, je me suis dit bon, c'est important de tomber malade comme ça. Et du coup, je reviens à l'histoire du bus. Je bouffe le truc, on finit par arriver à l'aéroport assez tard, mais finalement encore beaucoup trop tôt parce qu'on a dû arriver vers minuit, 1h, et notre avion pour Bombay était à 6h du matin. Et le truc de ce putain d'aéroport de Chennai, c'est que soit tu pouvais rester dehors, soit tu pouvais rester dedans, tu vois. Mais une fois à l'intérieur, tu pouvais plus ressortir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a peut-être passé une demi-heure dehors à fumer des clopes, et puis bon, à la fin, on s'est dit, vas-y, faut rentrer, quoi. Moi, j'espérais pouvoir manger un truc à nouveau, mais il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait que des sièges métalliques. Et donc, pendant 6 heures, on était dans ce hall d'aéroport, à rien branler, on essayait de dormir.
Mais c'est amusant, je voulais juste peut-être décrire un tout petit peu en 2 secondes l'état dans lequel on était en allant à Chennai, parce que c'était un drôle de moment dans le voyage. Ça correspondait vraiment à la fin de cette parenthèse en tout cas de ma partie du voyage, toi t'as continué après moi, et ça correspondait vraiment à cette parenthèse qu'on avait décidé de faire toi et moi, où on avait quitté Bombay et traversé l'Inde en fait d'ouest en est, et arrivé à l'est.
L'Inde du sud, d'ouest en est.
Et arrivé à l'est, à Chennai, là on reprenait un avion, mais pour retourner à Bombay, c'est-à-dire notre point de départ, c'est-à-dire refermer cette espèce de parenthèse qui nous avait fait traverser l'Inde.
Ouais, bah exactement, c'était vraiment les dernières heures qu'on passait tous les deux, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, il y avait une petite nostalgie dans l'air. Je me souviens que toi notamment, je te sentais fébrile sur ce retour. Et puis on était très fatigués, quoi. Et donc on est dans ce hall. Toi, dans mes souvenirs, t'avais réussi à dormir un petit peu, mais...
Je me souviens, tu t'étais assis sur un coin de trottoir. On s'était assis là quand le bus était arrivé à l'aéroport. Tu m'avais dit, il faut que je fasse en sorte d'organiser ma vie pour pouvoir voyager.
Ouais, c'est quelque chose que je pense toujours, que j'essaie de faire. Mais c'était un beau moment. Et du coup, bah voilà, ça c'était sur un truc où toi tu t'étais recroquevillé sur un morceau de siège métallique. Je sais plus dans quelle position fœtale, mais. Bref, et moi, j'arrivais vraiment pas à dormir, et du coup, je faisais des allers-retours. J'essayais de marcher très très lentement d'un bout à l'autre du hall, peut-être en comptant mes pattes, quand tu commences à compter jusqu'à... Bah, tu te dis, bon, je compte jusqu'à 1000, et après je regarde l'heure pour voir si le temps passe, et tout ça. Quelques allers-retours aux toilettes, j'essayais de choper un wifi, mais j'arrive jamais à choper les wifi dans les aéroports.
Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je crois que j'ai pas vraiment réussi à dormir, j'ai cherché la position idéale. Il y a un moment où tu deviens une sorte de machine, quoi. Enfin, tu te mets à tout rendre en statistique, tu vois. Tu te dis que si tu ramènes un tout petit peu les genoux vers la poitrine, a priori, tu vas articuler mieux le dos et tu vas trouver quelque chose d'un tout petit peu plus confortable par rapport à la rondeur du siège, etc. Je crois que j'avais pas réussi à dormir. Il y avait des types autour de nous qui ronflaient.
Bah ouais, ça c'était impressionnant tout au long du voyage de voir à quel point ces lucides arrivaient à dormir. Partout, dans n'importe quelle position. Ça c'était assez fou, tu vois.
Bah, c'était le premier souvenir que j'ai d'Inde quand on est arrivé à l'aéroport, quand on est sorti sous cet immense Porsche en béton, là, tout neuf, et qu'il y avait ce type. On s'était assis, on avait fumé une cigarette. C'est une drôle de cigarette après avoir. Il faisait très très moite. C'est une drôle de cigarette quand t'as fait des longs trajets en avion comme ça et que tu sors avec la température à laquelle tu te trouves immédiatement projeté. C'est quand même dégueulasse le. L'air conditionné des avions. Et il y avait un type qui était en train de dormir, allongé sur la fontaine à côté. Et il avait la tête vraiment à la perpendiculaire de la fontaine contre le béton. Et il avait l'air d'essayer de faire un oreiller confortable.
Ouais, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai jalousé. Mais c'est vrai que pendant les 2 mois en Inde, au bout d'un moment, je dormais de plus en plus aisément dans différents endroits. Mais quand même, j'ai jamais atteint ce point, cette facilité. Mais du coup, ouais, pour finir cette histoire, parce que. On en vient quand même au sujet qui nous intéresse, c'est que vers 5h, les portes s'ouvrent et on peut commencer à aller embarquer. Et bon, avant vraiment d'embarquer, je me souviens qu'on était dans un fumoir, enfin moi j'étais dans un fumoir vraiment crasseux, t'avais refusé de me suivre. Et puis ensuite, on est monté dans l'avion.
Et là c'était vraiment... Dans l'avion, il y avait les sièges qu'on cherchait depuis 3 semaines, quoi. C'est-à-dire des sièges d'avion, quoi. C'est pas le grand confort, mais... Et alors, comment est-ce qu'on peut raconter ça? Comment est-ce qu'on peut y mettre suffisamment de solennité?
Ben non, mais parce que toute l'idée, c'était de parler de sommeil, mais finalement, il n'y a rien à décrire, à part que...
Et là, donc c'est incroyable, on s'est assis l'un à côté de l'autre. Je crois qu'on s'est pas parlé. On s'est endormi, l'avion n'avait pas encore décollé.
Et on s'est réveillé, l'avion avait atterri.
C'est-à-dire qu'on a vraiment traversé l'Inde, pour le coup, d'est en ouest. Et aucun de nous deux n'a le moindre souvenir, ni du décollage, ni de l'atterrissage.
Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas. Des gestes que tu évites de faire. Tu t'es couché tôt. Ton sommeil a été paisible. Tu avais remonté ton réveil. Tu l'as entendu sonner. Tu as attendu qu'il sonne pendant plusieurs minutes au moins, déjà réveillé par la chaleur, ou par la lumière, ou par l'attente. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux fait peut-être à ta place, un heure, les gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vêt, s'en va. Au fil des heures, des jours, des semaines, des saisons, tu te déprends de tout. Tu te détaches de tout. Tu découvres avec presque parfois une sorte d'ivresse que tu es libre, que rien ne te pèse, ne te plaît ni ne te déplaît. Tu trouves dans cette vie sans usure et sans autre frémissement que ces instants suspendus un bonheur presque parfait, fascinant, parfois gonflé d'émotions nouvelles. Tu vis dans une bienheureuse parenthèse, dans un vide plein de promesses et dont tu n'attends rien. Tu es invisible, limpide, transparent. Tu n'existes plus. Suite des heures, suite des jours, le passage des saisons, l'écoulement du temps. Tu survis, sans gaieté et sans tristesse, sans avenir et sans passé. Comme ça, simplement, évidemment. Comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur un palier. Comme 6 chaussettes trempées dans une bassine de matière plastique rose. Comme une mouche ou comme une huître. Comme un arbre. Comme un rat.
Junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.
Pas mort, tu n'es pas devenu fou. Nulle malédiction ne pèse sur tes épaules. Nulle épreuve ne t'attend. Nul corbeau n'en veut à tes globes oculaires. Nul vautour ne s'est vu infliger l'indigeste pinsomme de venir te boulotter le foie, matin, midi et soir. Nul ne te condamne et tu n'as pas commis de faute. Le temps qui veille à tout a donné la solution malgré toi. Le temps qui connaît la réponse a continué de couler. C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout recommence, que tout commence, que tout continue. Cesse de parler comme un homme qui rêve.
Un homme paisible. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. « Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. » Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bon, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et s'endormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé, de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Bon, puisqu'il est déjà passé, il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous qui étiez à côté ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu? Voilà le mystère, toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, Alité, je n'ai pas suivi l'affaire. Et se rendormit.